Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
On commence bien la semaine hein, parce qu'on reçoit un grand dessinateur belge.
Dessinateur belge, ça devient un pléonasme. Oh.
C'est pas notre faute si on a du talent.
Bah ouais, la BD c'est notre truc.
Ouais, par rapport au football, ouais, j'imagine, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Bon, alors aujourd'hui on reçoit l'un des meilleurs dessinateurs belges, François Skuyten.
Imagine les dessinateurs belges, c'est déjà les meilleurs et paf, lui c'est le meilleur, voilà. Mais des meilleurs.
Oui, ouais, bah ça va, on a compris, c'est le Mbappé du coup de crayon. Quoi,
ouais, un peu, ouais, connu pour son univers fantastique. C'est lui, tu sais, les cités obscures, il décrivait des univers parallèles.
L'univers où vous auriez gagné la Coupe du Monde.
Oui, bah justement, là me vient la question. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas là aujourd'hui dans un univers parallèle.
Mince, j'y avais pas pensé.
Ça m'arrange pas parce que si on change d'univers et c'est pas François Skuyten qui débarque à 17h.
Ça serait fou. Un univers parallèle.
En plus, il vient pour un nouvel épisode de Blake et Mortimer.
Moi, il m'a fait flipper l'album.
Ça se trouve, on n'existe pas en fait.
Non, moi, j'ai trouvé ça très poétique.
Si ça se trouve, dans un monde parallèle par Jupiter et présenté par Patrick Sébastien.
Charline, dans l'album, Bruxelles devient inhabitable, c'est n'importe quoi.
Mais pas tout à fait, ça devient une sorte de ZAD, c'est très bien vu.
Non, mais tu m'enlèveras pas la tête que Bruxelles, c'est la meilleure ville du monde et puis moi, il m'a fait peur ce Blake.
Mortimer. Non, mais c'est sans compter l'affaire du palais de justice, des hiéroglyphes, de l'architecte Poulard de Londres, où ils veulent tous nous tuer.
Tu sais, Charline, je me demande si c'est pas toi qui vis dans un univers parallèle.
Ouais, et peut-être qu'en vrai, tu travailles sur Europe 1.
Bonjour, la France Inter. Nous sommes le lundi 10 juin 2019. Et voilà déjà 15 jours, soit 356 heures que Benoît Hamon s'est mis en retrait de la vie politique. Il nous manque, hashtag bring back our Benoît, cœur avec de la salade tomate oignon. Trois ingrédients qui, comme ces trois infos, vont donc finir en kebab à 18h. Un nouveau rapport scientifique prévoit l'effondrement de notre civilisation due au climat pour 2050. Tandis que le mot survivalisme vient d'entrer dans le Larousse. Le survivaliste étant celui qui prépare la fin du monde en apprenant à survivre dans la nature.
Vous aimez bien la nature, hein ? Je suis sûr que vous vous promenez à poil dans les bois.
Non.
Vous avez déjà fait du cheval à poil ? Moi, j'ai fait du poney à poil. C'est pas beau et ça fait mal.
Un autre monde parallèle se construit, celui-là dans une bulle climatisée. Le Qatar a fait venir des centaines de vaches par avion pour installer une ferme laitière au milieu du désert et devenir autosuffisant pour le lait, notamment. On me dit que la Noireau vient d'atterrir à Doha.
Ah. Il fait vraiment une chaleur de pute en ce moment.
Les architectes veulent laisser une empreinte. Pour certains, cette empreinte fait plus de 100 étages, des milliers de tonnes d'acier et de béton. En attendant les gratte-ciel écolo, leur empreinte est donc surtout écologique. Lui, quand il tutoie les nuages, ce sont ceux peints par Magritte. Bonjour Alex
Vizorek. Vous êtes magnifique. Ma poète préférée, Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous donne une belle équipe à ce prix-là. À 17h20, celui qui, dans les couloirs de Radio France, est surnommé le Raphaël Nadal du journalisme, car il a des origines espagnoles et des slips trop petits. C'est vous, Pablo Mira, bonjour.
Pas faux. Salut tout le monde, Alex, Charline et puis bien sûr Gollum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle forme d'art comique qui est en train d'émerger après le pantomime, après le cirque ou la satire. Je vais vous faire découvrir le foot féminin. À tout à l'heure.
À 17h30, celui pour qui la vie est un long jour férié, car il prétend ne jamais travailler, et cela se ressent dans certaines de ses chroniques. C'est vous, Guillaume Meurice.
Eh oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des jours fériés. Justement, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Est-ce que les Français travaillent assez ?
Oui, ils foutent rien.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Et enfin, à 17h40, en ce jour de solidarité avec les personnes âgées, c'était bien d'avoir quelqu'un autour de la table qui se comporte comme eux. Elle est avec nous, c'est Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonjour, Alex. Éculé. Et de surcroît déplacé. Ouais. On va parler de la... l'œuvre de notre invité.
Oh, et oui.
J'ai pas voulu déflorer.
Hey, voici celui qui va envoyer l'open space dans une autre dimension. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes.
François Skuyten.
Oh, mon Dieu. Oh, by Joe.
Mais normalement, on dit Schuyten.
Alex Vizorek.
Oui.
En France.
Non, Skuyten.
Oui, en Belgique.
Chers amis auditeurs français de France Inter, François Schuyten est avec nous. On dit Skuyten. Ouais. Et donc, comme on est belge, on va dire. On dira les deux, parce que sinon, on va perdre les auditeurs. François Skuyten. Le maître de la bande dessinée.
Francois, je crois.
Pardon ?
Francois, on dit.
Francois.
Oui, Francois.
Francois Schuyten.
Voilà.
Alors, Francois Schuyten, cette nouvelle aventure.
Oh, je suis habitué.
Vous nous nous proposer une aventure de Blake et Mortimer, d'après les personnages bien sûr d'Edgar P. Jacobs. Vous ne travaillez pas seul, vous avez travaillé avec le réalisateur Jaco Van Dormael, fameux réalisateur du 8e jour, l'écrivain belge très fameux chez nous et en France aussi, Thomas Gunzig, l'illustrateur et affichiste préféré de Francis Ford Coppola ou de Spielberg, qui est
Laurent Durieux.
Laurent Durieux, exactement. Donc on a droit à une finale double messieurs Roland Garros de la BD.
Pour oui, je sais, ça fait un peu super groupe.
Oui,
le boys band de la BD.
Oui. Très bien, avec vous au dessin, Laurent Durieux pour la couleur, bien sûr, et puis le scénario avec vous, avec Jaco Van Dormael et avec Thomas Gunzig. Alors, Blake et Mortimer ont vieilli dans cette aventure. Blake est à la retraite. C'est Mortimer qui est à la retraite. Blake, il est monté en grade dans l'armée. Ils se sont un peu éloignés, tous les deux, mais pour sauver le monde, ils vont renouer, car il y a des radiations ultra puissantes qui émanent du palais de justice de Bruxelles, et qui est monumental, hein, qui est pharaonique, trois petits points, on va en parler, pourquoi pharaonique, qui provoque la panne de tous les systèmes informatiques, des moteurs aussi, la ville est évacuée, bouclée, condamnée, mais quelques mois plus tard, Mortimer va y retourner de façon clandestine pour tenter d'identifier le mystère qui provoque le blackout de la moitié de l'Europe. Voilà pour l'histoire. Première question, Françoise Keuten, votre filiation avec Edgar P. Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer, est-ce qu'elle est évidente
pour vous ? Je me suis rendu compte en faisant le livre qu'elle était évidente. C'est vraiment en reprenant ces personnages et surtout en essayant de comprendre comment fonctionnait cet univers que j'ai vu tout ce que je lui devais en fait, à quel point il m'avait profondément marqué. Mon frère me lisait ça quand je ne savais même pas encore lire. Mm-hmm. Et sans doute que ça s'est profondément insinué en moi.
Alors, vous êtes dans une forme d'entre-deux. Les politiques diraient le changement dans la continuité. Parce que vous partez de la c'est un peu la suite du mystère de la Grande Pyramide. Mm-hmm. Vous poursuivez l'œuvre, mais les personnages ont 10 ans de plus. Et puis le trait a changé. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la fois dans la continuité et que vous vous êtes ménagé une marge de manœuvre, et notamment ces 10 ans d'écart permettent cette marge de manœuvre.
Oui, c'est un petit peu impressionnant hein, de reprendre des personnages comme cela. Donc du coup, quand on les met dans sa main, s'ils ont vieilli, si on peut garder le style qu'on a, parce que c'est déjà suffisamment difficile, oui, ça donne plus d'aisance et on se sent surtout avec l'envie de rendre hommage à ce travail, de traverser cet univers, mais pas en restant seulement fidèle au style, mais en étant fidèle à l'esprit, mm-hmm. en étant fidèle à cette passion pour une dimension scientifique, une dimension fantastique, un peu de science-fiction. Oui. C'est ça qui m'a intéressé.
Et un côté un peu visionnaire aussi, ou métaphore du monde dans lequel s'inscrit l'aventure.
Ce qui est formidable avec ces auteurs, c'est que c'était vraiment des cartographes de leur temps. Ils savaient saisir les angoisses, les rêves, et ça, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de retrouver, cette espèce de tension qu'ils avaient avec leur époque.
Et ce qui a de commun avec vous d'ailleurs, vous aussi ?
Ben, on a essayé, oui.
Qui s'est choisi ? Parce que dans Dieu habite Bruxelles, le dernier film de Jaco Van Dormael.
Le tout Nouveau Testament.
Ouais, Dieu habite Bruxelles. Et c'est Thomas Gunzig qui faisait le scénario, donc eux deux avaient bossé ensemble. On retrouve un Bruxelles un peu vide, avec parfois des animaux qui se baladent. Évidemment, c'est le cas un peu ici aussi. Est-ce que c'est en voyant ça que vous vous êtes dit, mais voilà une histoire qui va pouvoir matcher avec mon envie de faire un nouvel album de Blake et Mortimer ?
C'est un ensemble d'éléments, un petit peu un alignement de d'étoiles, parce qu'il a fallu pas mal de choses, la volonté de l'éditeur. Jaco, qui très vite est entré dans le jeu. Jaco est un ami depuis 40 ans. Il a amené Thomas. Et puis le sujet est venu parce que Jacob s'avait laissé quelques notes sur le palais. Et donc, on ne s'est pas rendu compte comment tout ça s'est construit, mais la personnalité, nos trois personnalités ont naturellement trouvé le chemin, comme le lit. Comme la rivière trouve son lit. C'est vrai que c'était très agréable de travailler avec ces deux lascars et puis après avec Laurent. C'était joyeux de reprendre ces personnages qui étaient un petit peu dans notre imaginaire d'enfant.
Ce qui est très étonnant, c'est que l'histoire démarre d'un
d'un palais de justice à Bruxelles. Alors c'est une histoire qui est très universelle, qui s'étend au monde, le monde est menacé. Vous avez donné peut-être un indice, c'est vrai que Jacobs a laissé une note écrite, c'est de là que parle, parce que le palais de justice de Bruxelles, il faut expliquer à nos auditeurs, il est, la superficie, il est aussi grand que la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est complètement mégalo comme ouvrage pour un si petit pays qui ressemble à un confetti, la Belgique, et Bruxelles qui ressemble à un village. Et
c'est
donc,
un monstre.
Le palais de justice, ouais.
Oui, c'est un monstre de pierre, à peu près 18 ans travaux complètement, l'architecte qui ne verra pas la fin du chantier, tellement que le projet est vraiment, vous avez raison de le dire, pharaonique, et on ruine les caisses de l'État. Le terme architecte est devenu une insulte parce qu'on a démoli une partie des marolles, donc ça a traumatisé beaucoup.
Tout un quartier de Bruxelles.
Donc
espèce c'est... d'architecte, on disait alors.
Oui, skive architecte.
Ah, architecte de travers.
Architecte de travers. Bon, mais le lieu est très mystérieux aussi, très très étrange. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de récits autour de ce palais. Quand on arrive en Thalys, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, on voit la silhouette de ce palais, c'est toujours entouré d'échafaudages. Oui, voilà, ces fameux échafaudages qui le caractérisent parce que ça fait 35 ans. Et maintenant, on donne enfin une explication pour pouvoir remercier les hommes politiques qui l'ont conservé pendant si longtemps.
Et vous l'avez sillonné de fond en comble, hein, un peu comme faisait Jacobs aussi, était très méticuleux dans l'observation, aussi en Égypte, à Gizeh, c'est ça, où vous avez observé. Une dernière petite question avant d'écouter un peu de musique et d'y revenir ensuite. Laurent Durieux qui colorise l'album, c'est très important, la couleur aussi, d'autant que j'ai appris en écoutant l'émission de chez Laurent Goumard, le nouveau rendez-vous, vous étiez tous invités, que Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer, a colorisé des albums de Tintin, c'est ça ?
Oui, Hergé est allé le chercher parce que je pense qu'il n'était pas tout à fait... Il se cherchait pour la mise en couleur de Tintin. Et quand Jacobs est arrivé, on voit tout de suite la différence. C'est un monstre, c'est un très très grand coloriste. En fait, c'est un homme qui, pour moi, est très sous-estimé pour des tas de raisons. Il a eu une fin de vie un petit peu difficile. Il est arrivé fort tard à la bande dessinée, donc il n'a pas produit beaucoup de livres. Et pourtant, cette œuvre perdure. Donc elle a une force interne tout à fait extraordinaire. Et c'est ça encore qui rayonne. C'est ça qui rayonne aussi, j'espère, dans ce livre.
Le dernier pharaon, donc. Skeuten, Van Dormael, Gunzig, Durieux. Une aventure de Blake et Mortimer. We Redbone, Come and Get Your Love, bien sûr, puisque tu es sur France Inter. Évidemment. Il est 17h21 au péage de Vienne-Reventin. Vous êtes en train d'insulter le véhicule devant vous car la barrière de péage ne s'est pas levée. Et bien sûr, c'est de la faute de la personne devant vous. Vous écoutez France Inter. Le dessinateur François Skuyten est en notre compagnie. Il est venu nous présenter une aventure de Blake et Mortimer. Alex Vizorek pour entourer
Clara,
le maître de la BD.
Clara Dumono qui parlera de cet album. Guillaume Meurice qui parlera jour férié. Oui. Et Pablo Mira qui va parler football féminin. J'ai sorti des pop-corn.
Je suis là.
Il ne faut pas prendre les Français pour des canards sauvages.
Le journal de presque 17h17.
Ça va mon coin-coin.
Et on commence par les titres.
Suite à la tribune pro-Macron des maires de droite dans le JDD, Valérie Pécresse dit ne pas du tout partager cet appel à soutenir le président.
Oui, après on la connaît Valoche au prochain remaniement et sera présidente du fan club de Manu.
Aux États-Unis, le chêne, symbole de l'amitié Trump et Macron qu'ils avaient planté ensemble, rappelez-vous, à la Maison Blanche, eh bien ce chêne est mort.
Eh oui, le chêne est mort, heureusement, il nous reste les deux glands.
Et les brèves.
Oui, parce que l'arbre des brèves, lui, est en éternel florissant.
On commence par la politique française.
Et oui, ce matin sur BFM TV, Apolline de Malherbe recevait Gabriel Attal, le plus jeune membre du gouvernement ever, et elle lui a posé une question facile. Hein, est-ce qu'Emmanuel Macron est de droite?
Oh, on dirait moi. Et...
pourquoi?
Parce qu'il y a la réponse à la question.
Et ouais, et ben, malgré ça...
Macron n'est pas de droite. Emmanuel Macron vient de la gauche. Et il porte un projet pour le pays qui rassemble des personnes qui viennent de la gauche, de la droite, du centre.
Et voilà, et on regrette tellement qu'elle ne lui ait pas demandé s'il trouvait Castaner compétent.
À droite toujours, donc, oui. Henri Guénaud s'est déclaré convaincu que les Républicains n'ont pas d'avenir.
Oui, on dirait la diarrhée qui se moque de la gastro-entérite.
À gauche, à présent, Nathalie Arthaud déclare pour Lutte ouvrière, l'union de la gauche, ce sera sans nous.
Oui, avec les 0,8% obtenus par Lutte ouvrière aux européennes, elle aurait même pu dire les élections, ce sera sans nous.
Passons au son du week-end.
Oui, nous sommes sur RMC Sport il y a quelques jours et ça parle de l'affaire de l'accusation de viol de Neymar. Et Daniel Riolo fait l'honneur de sa profession de journaliste sportif en ouvrant un pan peu exploré du débat.
Je peux plus m'empêcher de penser à un truc un peu con. Hein. La nana. Tu l'as vu la nana?
Ouais, je l'ai vu.
Tu fais venir une nana du Brésil.
Tiens, non, attends, effectivement, c'est très con.
Je m'attendais à ce que ce soit l'avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu.
Voilà, il était vachement déçu par la fille. C'est brillant, c'est un peu comme se poser la question de savoir si au fond, le petit Grégory n'était pas un peu turbulent comme enfant. Et derrière, Jérôme Rotten, ancien footballeur, donc bien à même d'argumenter les théories de son compère.
Quand tu t'appelles Neymar, normalement, c'est Champions League. Mais au moins, ça passe les huitièmes.
Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois, ça débarque. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde.
Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi.
C'est un Lorient. Voilà, les deux se sont excusés.
Ah bon, c'était comment les excuses?
C'était des excuses même pas de Division 2, c'était des excuses de CFA. C'était pas Lorient, c'était la S Poissy, je vais vous dire.
Tout autre chose, passons plutôt au climat.
Oui.
Le spécialiste météo Laurent Romeshko annonce que les températures en France seront au moins de 40 degrés à partir de 2050 en juin.
C'est bon. Oh, pardon. Non.
Quoi?
Non, je suis con parce que je voulais faire une blague sur les vieux et la canicule. Ouais. Et en fait, en 2050, bah, je ferai moins le malin si on m'hydrate pas. Donc,
c'est vrai, effectivement.
C'était con.
International, en Uruguay. Une conductrice a été verbalisée pour beauté excessive.
Enfin, Charline, soyez prudente.
Quoi?
Non, mais je dis pas. Non, mais c'est pas pour vous, Charline. C'est possible. Ça va vous coûter cher en amende, en tout cas.
Non, c'est gentil.
C'est pas de la gentillesse. C'est que j'ai pas envie d'aller sur RMC Sport. Alors moi, je dis que toutes les femmes sont belles et comme ça,
terminé. Ok, ouais, très bien. Vas-y, balance tes brèves.
Ok, Des élus bretons demandent aux bars du coin de ne plus servir d'alcool à leurs agents municipaux. Si les agents municipaux veulent encore se rendre dans un PMU, il leur reste encore RMC Sport, heureusement.
Peut-être une dernière.
Ouais, une dernière spéciale Bretagne. Aujourd'hui, on a la chance. Dans le Finistère, Saint-Ronan, contrôlé à plus de 3 grammes, il allait chercher ses enfants à l'école. Quand je vous dis que ça allait être saoulant d'avoir des enfants.
Merci Alex Vizorek.
De rien, c'est calot.
17h26 au péage de Saint-Arnoux, où on nous écoute dans les bouchons de retour de long week-end. Vous écoutez France Inter. François Skuyten est en notre compagnie et on va aborder ce premier thème avec vous, François. C'est François Schuiten qui est avec nous pour les Français. Le mot survivalisme vient d'entrer dans le Larousse. Voilà qui officialise l'intérêt grandissant que portent certains citoyens à la survie dans la nature et aux théories de l'effondrement de notre civilisation. Tant que c'est prévu pour 2050, d'après la dernière étude publiée par des scientifiques australiens. Étude que le GIEC relativise pour l'instant. Alors, que répondent les survivalistes ?
C'est visionnaire, hein.
Il manque.
Il a tout dit, quoi. Et
voilà.
Alors, regarde ça dans la salle d'Anoiseau.
François.
Et il était seul, hein, pourtant. Hey.
C'est notamment le quotidien belge Le Soir qui nous parle de cette étude australienne. En 2050, plus de la moitié de la population mondiale serait soumise à 20 jours par an de chaleur létale. On y est. Et voilà qui ramène en réalité à l'album.
Oh, c'est Blake
et Mortimer. Bien sûr. Transition. Évidemment.
Quel
évidemment.
Moment de radio.
Car quand Mortimer revient à Bruxelles, qui a été ville bouclée, abandonnée à cause de radiations terribles qui bloquent, je rappelle, qui fait tomber en panne les moteurs, l'informatique, etc.
De Faraday au-dessus de la ville.
Exactement. Bruxelles est devenue une zone morte depuis des mois. Mortimer revient et puis il tombe sur des gens qui réussissent à vivre en autarcie dans ce chaos. Qui sont ceux qui ont inspiré ces personnages que Mortimer croise dans cette ville morte où la nature a repris ses droits, où on croise des biches, des fans? C'est des altermondialistes, des zadistes, c'est des survivalistes?
Oui, c'est un petit peu tout ça, vous avez tout à fait raison. Ce qui est excitant, évidemment, c'est d'imaginer une situation en même temps terrifiante et en même temps des gens qui résistent, des gens qui trouvent des solutions, des gens qui réinventent le monde. C'est toujours ça qui est amusant, c'est de voir dans les pires situations aussi de la lumière. En ce qui concerne les survivalistes, moi, j'ai la fille de mon frère qui fait ça. J'ai toujours été épaté de la voir aller dans des endroits invraisemblables, au milieu des routes, vivre pendant plusieurs jours avec presque rien.
Ouais. Ça, comme un défi qu'on se pose à soi-même.
Oui, une façon de sentir aussi les limites, sentir ses limites et puis voir le lien, enfin l'alignation qu'on a. Pour plein de choses, on est totalement...
Mais dans son cas, dans un réel but de se préparer à peut-être la chute...
Je ne suis pas sûr, je devrais peut-être un petit peu lui poser des questions avant de déclarer quoi que ce soit.
Peut-être elle a des infos.
Oui, voilà, mais je crois surtout qu'elle avait besoin de voir, justement, de revenir à des fondamentaux, comment on résiste.
Mais justement, dans l'album, c'est à ce moment-là que c'est une des rares fois où on croise une... Vous amenez une femme dans Blake et Mortimer, qui est une sorte d'adjuvant, de presque d'alter ego de Mortimer, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait le méchant Ulrich qui lui a disparu. Et il y a une femme, parce que chez Jacob, ce n'était pas évident qu'il y ait une femme. Hein.
Pas du tout évident, et c'est vraiment le personnage central presque de l'histoire. Elle a la capacité à conduire les rêves de Mortimer, parce que donc effectivement, cette ville crée aussi des cauchemars épouvantables suite à ces radiations, donc les gens s'en vont aussi à cause de ça. Et elle va l'aider. À diriger ses cauchemars, à l'aider à sortir de là. Et ça va être l'élément aussi qui va lui permettre de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et à un moment, au moment clé, elle sera là.
C'est une migrante.
Et c'est une migrante, vous avez tout à fait raison. Le rapport de migration, d'ailleurs, est un petit peu sous-jacent au récit.
Là, il y a vraiment un récit sur l'altermondialisme, parce que si les radiations qui émanent du palais de justice de Bruxelles envahissent effectivement toute la Terre, c'est la dette de l'Afrique qui chute, c'est les actifs dans les banques, etc., tout s'écroule. Donc derrière ça, il y a ce côté...
Une vision égalitaire, un peu. On faisait la réflexion
tout à l'heure. On met tout le monde à zéro.
Oui,
voilà.
Oui, un petit peu aussi une ode à la décroissance. Il va falloir un jour qu'on se pose des questions sur comment arrêter ou calmer un système affolé. Et c'est sûr que c'est amusant qu'aujourd'hui, comment on sauve le monde aujourd'hui? Quels sont les vrais dangers?
Avec des pétitions, c'est le créneau de Guillaume.
Il y a même parmi ces gens un ex-trader radicalisé, un peu complotiste et très très méfiant. Donc c'est politique aussi, hein, ce Blake et Mortimer qui se passe entre Londres et Bruxelles.
Au sens très large du terme, ce qui pour moi est la politique qui m'intéresse.
Il y a le personnage de Nicolas Dupont-Aignan qu'on reconnaît quand même, page 8.
Qui meurt dès la deuxième
ville. C'est de l'édito de Pablo Mira, éditorialiste donc, et j'ai découvert ça ce matin, quadruple champion de handi-lutte gréco-romaine mixte intergénérationnelle, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement de la bagarre entre des lutteurs poids lourds et des adolescentes en chaise roulante.
Très bien.
C'est plutôt simple comme concept.
Et donc Pablo, mon petit ange trapu, vous allez nous parler du foot féminin. Je sais que vous aviez de gros a priori à ce sujet, alors est-ce que vous avez changé d'avis?
Alors écoutez ma louloute, oui je me suis trompé, je le reconnais, donc si mes deux filles, deux grandes fans de cette équipe de France de foot, m'écoute, je leur présente mes excuses. Je leur avais dit que la pire des tortures, c'était leur spectacle de danse de fin d'année. Force est de constater que j'ai eu tort. Car oui, il est temps que dans ce pays, quelqu'un se lève et dise haut et fort ce que tout le monde pense, même ceux qui ne le pensent pas. Cette Coupe du Monde de foot féminin, c'est Non, hein, le sport et les femmes sont deux mots qui ne vont pas ensemble, comme Alex et abdominaux. Et il faut dire que le niveau de ce mondial est catastrophique lors du dernier match. Écoutez bien, l'attaquante de l'équipe de France était nullissime, pas un tir cadré, que des dribbles ratés, une lenteur abyssale. Et puis cette barbe, niveau féminité, on l'a vu mieux, excusez-moi.
Pablo, c'était contre la Turquie le match que vous avez vu ?
Ah oui, complètement, oui.
Ouais, alors bah, c'est, vous parlez d'Olivier Giroud alors ?
Ah, ils ont un homme dans leur équipe en plus de foot féminin. Ouais. Et en plus, elle triche. Vous voyez pourquoi ce sport me débecte, Charline.
Non, mais c'est surtout que le match des filles, c'est celui contre la Corée du Sud, Pablo.
Ah, la victoire 4-0, là ? Oui, je l'ai vu aussi, ce match-là. Sacré fessé au passage. De mémoire, personne en France n'avait autant humilié des Asiatiques depuis le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams sur les Chinois. Mais bon, ne vous fiez pas au score, car c'était horrible à regarder, ce match. La faute aux différences de niveau, hein, entre les femmes et les hommes. Il manquait l'impact physique, il manquait l'engagement. Et moi, ce que j'aime dans le foot, c'est le rugby, quoi. C'est pour ça que le foot masculin sera toujours 10 fois plus spectaculaire que le foot féminin, ne serait-ce qu'en termes d'intensité ou de faute de français en interview. Et puis niveau physique, il n'y a pas photo, je suis désolé. Les joueuses de foot sont lentes. Mais qu'elles sont lentes. Vendredi, écoutez, je mets le match contre la Corée, là, le match contre la Corée. Je tombe sur quoi ? Une phase d'attaque des Françaises. Et là, je me marre. C'était tellement lent. On aurait dit un ralenti. Hein. Bon, il s'avère que c'était vraiment un ralenti. Mais bon, quand même. Mais si encore il y avait que ce problème de vitesse. Mais non. Hein. Elles taclent jamais. Elles frappent moins fort. Elles ne sont jamais accusées de viol. Ça, c'est pas le foot que j'aime. Quant au niveau des gardiennes, alors là, ma louloute, le niveau des gardiennes. Pardon, mais certaines frappes, même Vincent Lambert pourrait les arrêter. Et après, les féminazis réclament un salaire égal entre les hommes et les femmes dans le foot. Alors là, ça, c'est costolastico, c'est fort de café, comme on dit dans le métier. Et c'est normal que les femmes soient payées 40 fois moins que les hommes, puisqu'elles génèrent moins de revenus publicitaires et puis de billetterie. Mais dès l'instant où elles rapporteront autant, alors là... Oui, d'accord, là ça me paraît normal qu'à ce moment-là, les joueuses de l'équipe de France gagnent 25% de moins que les hommes, comme une femme normale. Quoi. Mais au-delà de ces débats mercantiles, moi je m'interroge sur le pourquoi, hein, de l'existence même du foot féminin, parce que pardon, mais cette discipline n'apporte rien de nouveau à ce sport. Hein, pour elle, voilà, pour faire plus de 3 passes, tiens, du miracle dans les buts, c'est des passoires. Désolé les filles, mais pour tout ça, on a déjà les joueurs de Guingamp chez les hommes. Bah oui, mais vous faites les choquer là autour de la table. Je vois vos visages, vous faites vos choquer, mais vous savez très bien qu'au fond, je sais que j'ai raison. Et le plus triste dans tout ça, c'est que parce que je critique le foot féminin, qu'est-ce qui va se passer, hein? On va me traiter de sexiste, de misogyne, alors que par exemple, moi je regarde avec autant de plaisir le tennis féminin que masculin. J'étais aussi excité par la finale entre Dominique Thiem et Raphaël Nadal que par la finale entre la grande asperge et l'autre camion là. Donc moi, sexiste. Certainement pas. Pour conclure, merci quand même à toutes les sportives et aux discriminations auxquelles elles sont confrontées. Et bien de nous rappeler presque chaque jour que dans le sport, l'important c'est pas de gagner, ni même de participer. Non, l'important, c'est d'être un homme. Allez, salut.
Merci Pablo Mira. C'est tellement beau, j'ai envie de vous partager sur les réseaux. À chaque fois que vous venez, je sais pas pourquoi, Djoubaka programme ceci.
Ah.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je yeux d'enfant, que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que je suis ce vieux gris?
ça mon fils. Tout petit, tout mignon.
M, pour toi, mon petit ange.
C'est vrai que c'est récurrent un peu.
Grand petit con sur France Inter. Il est 17h37 au péage d'Erquelingue sur l'A16 dans le Nord, où vous êtes certainement coincé dans votre caisse et vous êtes bien content d'écouter Par Jupiter sur France Inter avec Françoise Keuten, Franck-Ouachuitan pour les Français, le pape de la bande dessinée qui nous présente son Blake et Mortimer, le dernier pharaon avec Jaco van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Édition Blake et Mortimer, bien sûr, d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs. À côté de vous, avant de reparler de votre œuvre, Françoise Keuten, et d'un autre thème, il y a Guillaume Meurice.
Oui, bah on est lundi de Pentecôte et on bosse quoi. Autant vous dire que je suis bien dégoûté parce qu'on fête quand même la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres quand même. C'est pas rien, c'est pas dégueu. Hein, c'est le fameux moment où Emmanuel Macron est descendu à la rédac de BFM pour murmurer aux oreilles des brochings. Alors le bon côté des choses, c'est qu'en travaillant, ça crée de la richesse. Et je rappelle qu'à Radio France, c'est pas du luxe parce qu'on doit trouver plusieurs dizaines de millions de nagui d'euros. Excusez-moi, cœur sur le bénévolat. J'attendais d'ailleurs l'édito de Dominique Seux sur les économies à Radio France. Oui, il aurait dit qu'il fallait être compétitif, baisser les salaires des chroniqueurs, mais j'ai pas entendu. Mais c'est un oubli sans doute. Toujours est-il qu'on bosse et ça crée débat dans ce pays. Sommes-nous à ce point un peuple de feignasses? Eh ben, je suis allé voir ce peuple ce matin pour vérifier ça.
Ah ben, je crois que quand ils sont au boulot, les Français travaillent, mais
ils travaillent quand ils sont au boulot, mais quand ils sont pas au boulot,
non, ils travaillent pas.
Voilà, le Français bosse quand il est au boulot, et dès qu'il quitte le boulot, il en profite pour rien foutre. C'est le problème, c'est l'esprit français. Alors, je ne rebondis pas sur le fait que quand il est au boulot, le Français travaille, hein, quand même, parce que je ne veux pas me fâcher avec les techniciens de France Inter. Hein, j'ai rien contre eux, j'ai moi-même un oncle alcoolique, c'est pas la question. La question, c'est le travail des Français et les jours fériés.
Je regrette qu'il y ait autant de ponts, parce que d'abord, ça casse le rythme du travail. Les gens sont complètement démobilisés. Reprendre le rythme du travail, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Et je pense que c'est contre-productif au final.
Vous êtes déstabilisé, là.
Je constate chez mes collègues une démobilisation évidente.
Oui, c'est chez les collègues, en fait, plutôt qu'on constate ça. J'ai la même chose, moi. Moi, ça me démobilise pas trop, mais je remarque, par exemple, Pablo, vachement démobilisé par les ponts. On peut même parler d'une peur des ponts, hein, qui n'est pas, sans nous rappeler, les Didi. Mais moi, je reste mobilisé. Bon, est-ce qu'on bosse assez en France?
La réponse est clairement non.
Non.
Je pense que une partie du problème réside dans les indemnités versées aux chômeurs. C'est tout.
Classique. Trop d'indemnités.
La réponse est oui.
La réponse est oui. C'est gagné, bien sûr. Vous gagnez une encyclopédie en 12 volumes sur l'histoire de la famille de Geoffroy Roux de Bézieux. Une épopée passionnante sur les cuillères en argent dans la bouche et les droits des travailleurs dans le cul. Bravo. Bravo, monsieur. C'est donc de la faute des chômeurs, mais il y a un autre problème.
Il y a un autre problème en France, c'est l'impossibilité de changer de lieu. Parce que désormais, toutes les femmes travaillent. Si une femme perd son boulot, eh bien, le mari perdrait le sien aussi à l'occasion.
Ça veut dire que c'était mieux quand les femmes ne travaillaient pas ?
Oui. Les gens sont plus mobiles, quoi, c'est tout.
Et c'est les femmes qui empêchent la mobilité.
C'est
hein,
le co-auteur de Pablo Mira, c'est vrai que vous soyez tombé dessus.
C'est mon papa, tout ça.
C'est vrai qu'il y a une belle famille, mais voilà, c'est vrai que cette femme, voilà, une femme, c'est cette corde qui vous retient au rivage. D'ailleurs, sur lesquelles, pourquoi vous pensez qu'on parle de bite d'amarrage? Bah, parce que la femme reste accrochée. Et ça empêche la mobilité. Satanée bonne femme, maintenant, elles font du foot, hein, vous avez raison, Pablo. Film Calcrode va jamais arriver à suivre. Il va se prendre les pieds dans son somme et il va se casser le col du fémur. Ça me dégoûte. Mais il y a pire.
Les Français, ils veulent pas travailler. Maintenant, attention, il y a trop d'étrangers en France.
Ah oui, bah, quel est le rapport là?
Ils prennent la place des Français parce qu'eux, ils travaillent.
Ah bah donc c'est bien alors qu'il y a des étrangers pour travailler, non?
Ah non. Puisque le Français ne veut plus travailler, monsieur, pas besoin de faire venir les étrangers. Bah, comme ça, le Français verra ce que c'est. Quand il sera bien dans la merde.
Ah, putain de Dieu! Je n'avais pas pensé à ça. Voilà. Pour que le Français reprenne le goût du travail, on vire les étrangers et là, on se rendrait compte. On pourrait même commencer par les Belges. Alors là, autour de la table, si on les vire, on est un petit peu dans la merde. Encore que Clara me disait tout à l'heure, notre invité, là, François Kitchen, c'est quand même un gars qui passe sa vie à faire des petits crobards. Là, on ne peut pas appeler ça du travail. Ça, ça vous regarde, Clara. Je vous laisse la responsabilité.
Courage pour la chronique.
Voilà, non, non, il n'y a pas de souci avec ça.
N'empêche. C'est pas vrai. N'écoutez pas.
L'histoire jugera, Clara. N'empêche que c'est une bonne idée pour qu'on se rende compte. Donc, comment on fait techniquement pour virer les étrangers?
Ceux qui sont à la porte de la chapelle, faudrait qu'un un coup de laser.
Un coup quoi?
De feu pour les foutre dehors.
Un coup de laser.
Allez, allez y vivre là-bas.
Ah, est-ce que c'est pas un peu violent ce que vous dites?
Non, c'est pas violent.
Non, mais je pensais, c'est pour ça que je pose la question. Enfin, j'ai bien fait de demander, parce que foutre le feu aux étrangers ou les virer à coup de laser, ça paraissait violent comme ça, clairement. Et je rappelle que les étrangers ne jouent pas dans Star Wars. Hein. Ils ne sont pas des poils qu'on peut virer comme ça à coup de laser. Je rappelle aussi que cette journée travaillée est destinée à aider les personnes âgées. Alors, quand on en entend certaines, on se demande si c'est une bonne chose. Et je rappelle... La question est posée. Et je rappelle enfin que pour chacun se respecte dans ce pays, il y a encore du travail.
Merci Guillaume Meurice, vous avez perturbé Elisabeth Collet, et donc la technique,
oui,
à la technique aujourd'hui Elisabeth, ben, voilà, qui s'en est pris plein la gueule.
Non, mais c'est pas facile de boire et de faire une émission en même temps. Voilà.
Nous sommes en compagnie de François Kitchen pour les aventures de Black & Decker jusqu'à 18h. François Skeuten avec nous. On va aborder cet autre thème avant d'écouter Clara Dupont-Modeau, le temps qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle respire.
Pour François Skeuten.
Oui, mais je suis très content.
Ah bon, ça va. On rigole pendant que les gens sont dans les bouchons. Le Qatar est victime d'un embargo imposé par ses voisins. Le pays travaille donc à son autosuffisance pour le lait, par exemple. Le petit émirat a construit une ferme industrielle en plein désert qui accueillera jusqu'à 20 000 vaches qui sont donc arrosées au brumisateur 24 heures sur 24 comme des plantes bégonias. Pour un lait de qualité, il faut des vaches épanouies. Et elles le sont, puisqu'elles sont mieux traitées que les ouvriers qui construisent les stades du foot mondial.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses.
C'est lui.
Faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées.
Ça a changé bien.
C'est la fin de la journée.
Chip-chip font les machines, les
vaches. Chip-chip font les machines, meux font les vaches. Mais c'est Marcel et son orchestre.
On aime beaucoup, en plus.
Mais bien sûr. Alors, il y a un article à lire dans Le Point, notamment, ou sur franceinter.fr, vous pouvez réécouter le reportage de notre envoyée spéciale Valérie Crova au Qatar. Alors, on évoquait au début de cette émission, François Skeuten, le survivalisme. Ici, d'une certaine manière, c'en est aussi. Ils cherchent l'autosuffisance. Oui. Il y a un embargo, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas consommer, etc. Donc, ils se disent, ok, très bien, ben pour le lait, on va faire venir des vaches en avion depuis les États-Unis. On va mettre une ferme en plein désert. Vous qui affectionnez les mondes parallèles, est-ce que c'en est un?
Écoutez, c'est une information tout à fait troublante, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas leur reprocher d'essayer de survivre, de faire survivre, enfin, de s'autonomiser, en gros. Mm-hmm. Je voudrais quand même voir le lieu, parce qu'il paraît qu'elles sont aspergées d'eau. Oui. Sans arrêt.
Dans un bruit épouvantable, en fait, parce que c'est des pompes énormes qui pompent l'eau. Et il faut savoir qu'il y a un immense portrait de l'émir du Qatar qui est dans la verdure, immense, et qui est
arrosé,
qui marque l'entrée, en fait, de cette ferme.
Il y a une treilleuse en cercle, et ça tourne, et puis il y a un brumisateur des douches, quoi, pour...
Et qu'est-ce qu'on leur montre à ces vaches pour leur donner envie de vivre?
Le portrait de l'émir.
C'est ça. Mais ce pays aussi, ces émirats, où pousse des architectures un peu folles, vous qui êtes passionné d'architecture, est-ce qu'il vous attire pour ça ou vous faites un blocage?
Non, le problème de l'architecture dans ces pays, c'est surtout, comment dire, quel est le projet? Comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans les enjeux de demain? Et c'est vrai que, bon, je ne veux pas déflorer le sujet suivant, mais sur ces tours énormes, ben on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets plus intéressants, d'autres idées plus intéressantes à développer? On voit bien qu'aujourd'hui, on peut créer, même dans des endroits comme ça, des projets tout à fait étonnants, en tenant compte justement d'un ensemble de paramètres. On pourrait imaginer une ville de demain. Alors, c'est en train de se faire, mais il y a des résistances. On voit bien qu'il y a encore le vieux programme, le vieux modèle qui résiste. Mm-hmm. Et ça, c'est très dommage, parce que je crois qu'aujourd'hui, tout est imaginé avec les technologies qu'on a, et les architectes, et l'ingéniosité. Et puis, il y a des gens qui veulent conserver un petit peu leur...
Mais c'est une phrase de votre père que vous citez souvent, qui disait le temps...
Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Ce qui est terrible, c'est aussi, c'est ces immeubles qu'on construit, puis 20 ans après, ou même pas, on les démolit, on en fait d'autres. Voilà, on se demande évidemment où on va avec un système qui s'affole comme celui-là.
Et c'est le cas avec le Palais de Justice de Bruxelles qui est au cœur des aventures de Blake et Mortimer, de votre album, qui est pharaonique, gigantesque et qui tombe en décrépitude.
Alors oui, alors ce palais, il est vraiment intéressant parce que c'est le symbole de la justice. Il domine la ville. Il est là comme un espèce de ombre qui plane sur la ville. Il était là pour symboliser vraiment la justice. Ce qui est terrible, c'est quand on le voit abandonné, on se pose quand même des questions. Et on se dit, et alors ? Où on en est au niveau de cette justice qui est sous-financée, qui est en difficulté ? On sait les avocats vraiment avec un matériel obsolète. Il est entré dans l'angle mort des Bruxellois. C'est quand même la capitale de l'Europe.
Alors qu'il est monumental, on le voit de partout à Bruxelles. Hein.
Oui. C'est invraisemblable. Il y a comme si on ne le voyait plus, justement, tout en étant aussi visible. C'est ça qui en fait un lieu, évidemment, de fiction formidable.
Et il avait inspiré Edgar P. Jacobs, qui avait laissé quelques notes retrouvées dans son cahier, été retrouvé par un journaliste du journal Le Soir, Daniel Couvreur.
Il a vécu tout jeune. Il a dû vivre vraiment en dessous de ce palais, puisqu'il allait jouer. Il y avait un terrain vague. Et donc, il devait tout gosse voir cette espèce de pyramide de pierre. Oui. Et certainement que ça l'a marqué. Et ce qui est beau, c'est qu'il voulait, malgré tout, à la fin de sa vie, y mettre un récit de ces personnages.
Eh bien, allons-y justement, entrons dans ce récit avec Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, parce que vous êtes notre actualité, Françoise Coyton, avec le dernier pharaon. Une aventure, c'est un tandem. Une aventure de Blake et Mortimer. Alors, dans les médias, je suis sûre qu'on parlera beaucoup de la résurrection de ce duo, de votre graphisme qui est assez proche du dessin architectural, etc. On parlera peut-être moins de la sexitude de Mortimer, si vous me permettez. Parce que...
Diable.
Ben oui, en avez-vous seulement conscience, Françoise Coyton, je n'ai pas l'impression, mais vous avez fabriqué là un des héros les plus désirables quand même de la bande dessinée, voire de la littérature. Élément de sexitude numéro 1, avec votre nouvel album, Mortimer, il a vieilli. Et on ne dira jamais assez les bénéfices du temps sur l'apparence humaine.
Les cheveux blancs, ouais.
Par exemple, non mais vous ne me croirez sans doute pas, Françoise Coyton, mais à 17 ans, moi, par exemple, j'étais un cajot. Et regardez-moi aujourd'hui. Non mais, vous voyez, il faut bien se défendre si vous avez vu ce que je prends.
On ne prend pas en otage l'invité.
Vous avez choisi de faire vieillir Black et Mortimer, contrairement à Spirou et Fantasio, qui eux aussi ont été repris par d'autres talents et qui ne vieillissent pas. Alors que votre Mortimer, il a le flegme de celui qui a tout vu, finalement, et la détermination de celui qui en a presque trop vu. Et à un moment, il s'apprête à sauter en parapente au-dessus de Bruxelles dévastée, et il dit à son compagnon Blake, il lui dit « Est-ce que vous réalisez que normalement, à mon âge, la plupart des gens se contentent d'emmener leurs petits-enfants au cinéma avant d'aller manger une glace ?» Et son ami lui répond « Oui, je sais bien, mais... vous n'êtes pas la plupart des gens. » Alors moi, affolement du compteur glamour, vous voyez, c'est quelque chose qui me fait quelque chose. Élément de sexitude numéro 2, Mortimer reste élégant. Alors ça, c'était une des grandes qualités qu'avait à cœur le fondateur de Black et Mortimer, Jacobs.
C'est vrai.
Votre trait lui donne une épure supplémentaire. Mais si je résume, Mortimer y survit à une noyade, à deux explosions, à l'attaque d'un poulpe géant, en pantalon de velours côtelé, veste sapin et nœud de papillon bleu nuit. Et en cela, Françoise Coyton, il y a du Bruce Willis en lui. Non mais attendez, oui, rappelez-vous dans la génial film Die Hard, toute la série Die Hard, le Marcel de Bruce Willis reste impeccablement blanc, malgré une chute d'hélicoptère et quelques diverses bombes nucléaires. Donc Mortimer a beau ramper dans les décombres de Bruxelles, sa raie reste sur le côté, il ne cède jamais à la panique, et alors qu'il doit trouver un code secret et qu'il lui reste bien entendu quelques minutes, qu'est-ce qu'il fait ? Il appuie son menton sur sa main et il dit « Réfléchissons ». Voilà. Ce sang-froid, on le retrouve chez tous les personnages. Regardez bien, on le retrouve chez tous les personnages de littérature sexy. Le Comte de Monte Cristo, Arsène Lupin, Phileas Fogg est dans Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Phileas Fogg, qui est un gentleman, est isolé en plein désert. À un moment, il décide d'aller sauver tout seul son équipe prisonnière des Indiens. Il ne sait pas si ses coéquipiers sont vivants ou morts. Et il prononce cette phrase sublime, je cite... Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. Voilà. Alors attendez, parce que moi je connais pas de phrase plus belle que ça. Et si un homme me quitte en disant « Clara, là est une incertitude qu'il faut faire cesser », je fais sa valise moi-même. Vous voyez, je m'incline et je fais son bagage.
L'appel est lancé,
la vraie élégance. Élément de sexitude numéro 3, le personnage féminin avec lequel il ne se passe rien. Grand secret du héros sexy. Vous avez inventé le personnage de Lisa, une très belle égyptienne, et malgré sa beauté, son savoir, Mortimer ne flanche pas. Alors évidemment, là, c'est la tradition littéraire du chevalier courtois, hein, de l'amour courtois, mais c'est aussi, on le retrouve, Miss Aouda dans Le Tour du Monde en 80 jours, encore, une belle orientale que Phileas Fogg ne touche pas. Cela n'empêche pas l'érotisme, n'en déplaise aux esprits frustres, parce que quand Lisa masse les tempes de Mortimer en susurrant « Détendez-vous, tout ira bien », avouez que c'est quand même la surchauffe.
Hein, il y a une case qui manque, à mon avis.
Non.
Il a bouillé dans un coin, mais
tout
moi,
ira bien.
J'ai les rushs.
Non, car les mots ont la victoire sur votre ignorance, Guillaume Meurice. Que je sache, Mortimer, ça rime avec lover. Lover, en anglais, oui. Si on ne le prononce pas bien. Voilà.
Ouais.
Bon, je vous donne les références.
Bon, c'est brillant. Hein.
Si on oublie la réalité, ça se dit comme ça.
Voilà, c'est lover. Le dernier pharaon est paru aux éditions Black et Mortimer.
Vous attendiez pas cette lecture, hein?
Ah, non, pas vraiment, mais
vrai.
je vais le regarder différemment.
Les aventures de Black et Mortimer, notamment avec Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux.
Oui, on a un tweet du conjoint de Clara. Là est une incertitude qu'il faut faire cesser.
La valise est dans le salon.
Allez, François Kitchen, on poursuit.
Montre-moi ta tour, et je te dirai si tu as un gros ego. Les architectes, les villes, les entreprises se livrent bataille, c'est à celui qui grattera le ciel le plus haut. En Arabie Saoudite, la Jeddah Tower est amenée à mesurer 1000 mètres de haut. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore la taille qui compte ou l'écologie? Grimpons ensemble dans la Jeddah Tower.
Dans un bâtiment moderne, pour monter de la rez-de-chaussée au niveau d'étage supérieur, bon nombre d'usagers optent pour la solution de ce qu'il est convenu d'appeler l'ascenseur. Mais attention, le confort de la cabine et cette douce mélodie relaxante ne doivent pas vous bercer d'illusions. En effet, un danger pernicieux menace les passagers, j'ai nommé les changements d'altitude. Voici donc quelques conseils. Respectez des paliers de décompression d'une vingtaine de minutes à chaque étage. Prévoyez donc des vivres en suffisance et du matériel de couchage s'il faut bivouaquer. Le plus simple et le plus sûr est encore de prendre l'escalier.
Faux Contact, programme court de la télévision belge avec le regretté comédien Manu Thoreau. Ouais. C'est dans le trimestriel Oui Demain, numéro de juin, que nous avons trouvé cet article sur ces gratte-ciels de plus en plus immenses qui sont absolument pas du tout écolo parce que c'est du béton, de l'acier, du sable qui n'est pas le sable du désert. Mais il y a des solutions pour les tours écolo. Ma seule question, Françoise Cuyten, vous passionnée d'architecture, les deux parents, je pense, étaient dans l'architecture. Ouais. On en est encore là, c'est à la plus haute tour, c'est encore intéressant, ça.
Ah, et oui, il y a toujours cette idée d'avoir une plus grosse, une plus longue. Et le drame, c'est que ça a traversé toute l'histoire. Hein, la tour de Babel, ce mythe, traverse toutes les cultures.
C'est Icare, où je me rapproche des cieux et du soleil.
Et votre album, La Tour, dans le troisième volet des Cités Obscures, bien sûr.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là qui est très profondément enfoui dans les rêves de l'homme. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est inadéquat à notre société. Il y a certainement... Il faut réinventer les tours, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on le fait. Il y a des projets de tours formidables où on pourrait imaginer même qu'elles bougent, qu'elles se développent, qu'elles soient autosuffisantes, mais même qu'elles produisent de l'énergie. Enfin, il y a des tas de possibilités qui s'ouvrent aujourd'hui. Mais là, c'est le délire.
Et je vous renvoie donc à Oui Demain, le numéro de juin. Alex, un sketch ?
Mais oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous. Et vous aimez l'architecture ? Vous êtes l'architecte choisi par Emmanuel Macron pour refaire Notre-Dame de Paris. Et première visite, Emmanuel Guillaume Meurice s'y rend avec vous. Évidemment, Stéphane Bern, moi-même, est présent. On y va. Alors, cette reconstruction de Notre-Dame, là, c'est toujours pas fini ?
Oh oui, le chef de chantier est arrivé, monsieur le président.
10, 9, 8.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Ben, on dirait qu'il décompte.
7, 6, 5.
Bah dis donc, vous croyez à la NASA, là ?
Presque. J'ai eu l'idée géniale de remplacer la flèche par un pas de tir.
Oh oui, un pas de tir.
Comme ça, au prochain incendie, hop, ça décolle.
À l'inverse de votre code de popularité, monsieur le président.
Non, c'est nul. Trouvez-moi une autre idée.
Que diriez-vous d'un champ électromagnétique ?
Oh oui, j'adore les aimants.
Pourquoi pas ? Je viens d'en utiliser un pour attirer la droite vers LREM, donc oui.
L'idée serait plutôt de rameuter de force les gens à la messe.
Oh oui, c'est très ambitieux.
Non, mais vous n'aurez pas quelque chose de plus disruptif ?
Que diriez-vous d'une éolienne géante ?
Excellent, ce serait un vrai régal ! Un signal envers les verts !
Un grand truc écologique qui brasse du vent ? Vous pensez à Jadot ?
Oh non, j'ai ri.
Et j'ai aussi pensé à un projet d'hologramme.
Ah non, 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 si c'est pour faire apparaître Mélenchon, non, non.
Non, c'est pour faire apparaître d'autres disparus.
Bonjour.
Oh là. Vous êtes qui ?
Je suis la Vierge Marie.
Oh non !
Oh là, bah c'est fou comme elle ressemble à Charlene Vanhoenacker.
Ça peut pas être elle, je connais sa vie sexuelle. Ah.
Ça va, moi aussi j'ai eu le feu au cul. Et Bernard Arnault a même payé pour ça.
Bon, non, éteignez-moi ça, j'ai d'autres propositions là. Il faut d'autres propositions, pardon.
Un parking à trottinette, c'est une proposition d'Anne.
De sœur Anne ?
Non, Anne Hidalgo.
Ah merde.
Et bien sûr, une antenne relais géante de téléphonie mobile, peut-être.
Pas mal, mais ouais, c'est dans l'esprit start-up, ouais.
Moi j'adore les antennes géantes.
Pardon. Et enfin, dans la grande nef, une piscine olympique.
Ah non, c'est complètement con. Hein.
Au moins, la piscine, elle brûlera pas.
C'était coquinou ce sketch.
Il y avait du coquinou.
Pensez printemps, les amis. Merci beaucoup, Françoise Keuten, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir.
Merci à vous.
Je rappelle cette aventure de Blake et Mortimer, d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs. C'est Le Dernier Pharaon, par Françoise Keuten, Jaco van der Maal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux, aux éditions Blake et Mortimer. Merci beaucoup, les amis. Merci Pablo Mira, merci Clara Dupont-Monod, Alex, Guillaume. Alex, vous avez un mot de fin d'émission ?
Mais oui, parce que quand on a des invités français, vous prenez l'accent belge plutôt 8 fois qu'une. Et puis quand on a des invités belges, on est déçus.
Alors, Franck, moi, je suis tant. Vous avez travaillé avec le réalisateur du 8e jour. Allez, François Kitchen, on poursuit.